If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Salut les amis, c'est Sofiane. Alors pour cet épisode, c'était un petit peu spécial. Notre conversation avec Mehdi Boussaïdan était vraiment tellement intéressante avant de lancer officiellement le podcast que j'ai décidé de vous la rajouter. Donc on part sur un début brut, voilà, comme dans certains podcasts. On parlait de Montreux, tout simplement. Je vous souhaite une bonne écoute. Bis à tous, même à toi là-bas.
C'est vrai que c'est dommage, quoi. Et Montreux, c'est le truc. Tous les humoristes rêvent d'avoir leur set à Montreux, quoi.
Ouais, moi ça faisait un bon moment que je voulais y aller, puis c'est le directeur, M. Führer, qui est venu à Montréal voir mon spectacle, qui a assisté à mon spectacle à la Place des Arts. D'accord. Puis il est venu me voir après, il m'a dit bonjour, j'aimerais bien que tu passes à Montreux, faire un tour, puis un passage. Puis j'ai dit bah oui, avec plaisir. Puis ensuite, quand ils se sont... comme je venais du Québec, il m'a dit écoute, t'es là toute la semaine, on va essayer de te faire jouer le plus souvent. Donc il m'a mis sur quatre galas différents.
Ah, c'est bien ça.
Ouais, j'ai pas chômé cette semaine-là, c'était très cool.
Eh ben écoute, c'est une bonne chose. Hein. La scène, c'est un virus, c'est un truc. Enfin, je sais que virus, c'est pas le bon mot en ce moment.
Ouais.
Mais la scène, c'est un virus, on va pas se mentir. Moi, je fais ça depuis 8 ans et franchement, je peux pas m'en passer, quoi. Là, tout est en pause, mais j'ai qu'une hâte, c'est que ça reprenne, quoi.
Ouais, moi aussi, j'ai très très hâte. Là. On a eu l'occasion de faire des spectacles quand même
ouais, sur
devant.
Zoom.
Sur Zoom, moi, devant personne, puis c'est là que tu comprends que ça perd un peu son sens.
Ah ben totalement. Là, franchement, moi, Zoom, ça me démoralise. Mais bon, s'il n'y a que ça, on n'a pas le choix, tu vois.
On a même des spectacles, parce que tu sais, ici, il y a le gala Juste pour rire qui a quand même eu lieu.
Oui.
En fait, c'est ça. Donc, on faisait notre numéro en salle.
Ouais.
Sauf que, bon, c'était filmé, mais il n'y avait personne dans le public. Ils ont rajouté un faux public au montage avec des faux rires.
Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Ils ont incrusté des images des anciens galas et tout.
Exact, ouais. C'était assez spécial. Fallait le voir plus comme un tournage. Tu faisais ton numéro, puis si à un certain moment tu te trompes ou t'aimes pas une vanne, tu peux tout de suite la reprendre.
Ouais, c'est le petit intérêt de faire ça de façon tournée et tout et monter derrière. Mais bon, ça battra jamais le vrai live avec le public et tout. Et c'est pas grave, même quand tu te plantes avec le public, t'as une telle connexion avec eux que tu rattrapes derrière, tu vois, tu kiffes quoi.
Ouais, voilà. C'est pour ça que je dis avec le public, ça, vraiment, ça rajoute quelque chose.
Ah ben oui, totalement. Bon, là c'est déjà bien d'avoir pu faire ça, c'est ce que je veux dire, tu vois. C'est que vous, au Québec, vous avez eu quand même la chance de pouvoir faire ça. Nous, en France, ils ont tout arrêté. Quoique, je te dis une bêtise, là, il y a eu deux plateaux qui ont été faits pas en Zoom, mais un peu différemment, tu vois, un vrai tournage et balancé sur Internet pour des connexions payantes. Il y a eu Perrino qui a fait l'Inglorious Comedy, si tu connais.
Oui.
Voilà, donc il a fait ça, lui, et là, le gros coup qu'il y a eu il y a quelques jours, j'ai halluciné, c'était Gad Elmaleh et Kev Adams.
Ah, ils ont refait un spectacle ?
Ouais, pas un spectacle ensemble, non, ils ont fait un plateau où ils ont fait venir plusieurs humoristes et tout, dans le Comedy Club de Kev Adams, tu as peut-être entendu parler du Fridge ?
À Marseille ?
Non, pas le Quai du Rire Kev Adams, lui il était parrain. Non, là c'est carrément son comédie club à lui à Paris.
Ah, je savais pas qu'il avait ouvert un comédie club.
Ouais, bah il l'a ouvert malheureusement. il devait l'ouvrir genre en février ou en mars 2020 et du coup Covid quoi. Et donc ça a été repoussé jusqu'en septembre, je crois. Il l'a ouvert en septembre 2020. Mais il y a vraiment du lourd qui est passé là-bas et tout. Bah déjà Gad Elmaleh qui passe régulièrement, tout ça. Et là, ils ont organisé un truc. Alors vraiment, ils ont été super forts. Moi, j'ai écouté ça sur un podcast. J'étais vraiment subjugué par la tactique qu'ils ont utilisée pour pouvoir jouer devant du vrai public et tout. Ils ont fait un truc. Peut-être que vous aussi au Québec, vous pouvez faire ça aussi. C'est qu'ils avaient du public dans la salle, mais ils les ont payés. C'est-à-dire qu'ils ont payé. Voilà, ils ont payé des figurants. Donc c'était plus un spectacle, c'était un tournage.
Ouais, c'est ce qu'on fait ici aussi.
Mais c'est tellement fort, c'est génial.
Super, ouais. Vous avez le droit à combien de personnes en France ?
Bah, officiellement, pour un spectacle, on a droit à zéro.
Payé, je veux dire.
Payer, ah, je sais pas du tout, mais à mon avis, comme c'est un tournage, je pense qu'ils vont leur dire la moitié de la salle, tu vois, une moitié de jauge, et puis les gens, bien sûr, masqués, gel à l'entrée, et ils enlèvent pas leur masque de la soirée. Oui, oui, ça, je pense que c'est possible. Mais à mon avis, ils leur laissent pas mettre toutes les places. Hein. Je pense qu'ils ont dû leur mettre, ouais, la moitié de la salle, quoi. Tu sais, une place sur deux, quoi.
Ouais, c'est ça qu'on fait, nous aussi. On a une limite de 75 personnes.
Quelle que soit la taille de la salle ?
Quelle que soit la taille de la salle. Donc moi, j'étais en spectacle à Québec la semaine dernière. C'est une, ouais, salle, c'est une salle d'à peu près, on va dire, 600-700 places. Ouais. Puis il y avait 75 personnes, mais ils les ont mis en mode cabaret avec des tables espacées. Donc ils pouvaient enlever, ouais, leur masque. Ah. Mais ça, 75 personnes, c'est quand même bien. C'est toujours mieux que de jouer devant une salle vide.
C'est mieux que rien, je suis totalement d'accord. Mais quand même, ouais, je veux dire, c'est bizarre. Parce que du coup, une salle de 50 personnes.
Ouais.
Officiellement, il a le droit de mettre 50, alors.
Techniquement, oui. Si les gens sont payés, puis qu'ils respectent les mesures sanitaires, ils peuvent remplir la salle totale. Ouais.
D'accord, mais du coup, tu vois, je ne savais pas qu'il y avait une limite au niveau du chiffre. Moi, je pensais que c'était la moitié de la salle. Et ben, du coup, il doit y avoir ça aussi. Moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait cette technique-là de payer le public pour les faire venir. Je ne connaissais pas du tout, mais je pense que vu qu'ils le font ici, il doit y avoir une réglementation aussi, tu vois, comme pour les tournages, quoi. Mais en tout cas, ça devait être cool. Ça va, toi, tu as passé quand même un bon spectacle.
Oui, bah oui, c'était le premier spectacle que je faisais où il y avait du public en salle. Donc, ouais, ça m'a fait chaud au cœur. C'est sûr que nous, on a les spectacles aussi l'été avec les voitures. Là. C'était le ciné-parc.
Ah ouais.
Ça, c'est... Ouais. La première fois que je l'ai fait, j'étais un peu sceptique. Mais après, j'ai... franchement, ah, c'est...
Ça... Ouais, ça va, on arrive à apprécier quand même.
Bah oui, parce que les gens, je veux dire, les gens sont là. Si l'humour, c'est une équation, un humoriste plus un public égale un show... mm-hmm. Le public est là. C'est sûr que tu entends un peu moins les rires.
C'est ça le problème.
Ouais, mais les gens sont là. Après, y en a qui sortent aussi de leur voiture, ils se mettent à côté, ils amènent des chaises et tout. Donc,
ouais. Bah, voilà, donc... ça moi, je serais plus chaud pour ça, tu vois. Mais après, le coup des klaxons, ce n'est pas les appels lumineux qui me dérangent, ce n'est pas les appels de phare, c'est vraiment le côté le klaxon, tu vois. Voilà, le klaxon, tu vois, voilà, je dirais, il va être. Ça va casser un peu le rythme du spectacle, quoi.
Il faut que tu fasses des liners. Il faut que tu y vas avec une balle à la fois, comme ça.
Ah, totalement. Ah, oui, non, avec des liners, ça va. Mais quand t'es dans le stand-up classique ou en storytelling et tout, c'est compliqué, tu vois.
Ouais, c'est surprenant au début, mais je te jure, le cerveau humain est bien fait. Tu finis par t'habituer. Tu finis par remplacer les rires par les klaxons.
Ouais. C'est ça. On s'adapte à tout, c'est clair. Bon, après, ça a dû être dur de voir, enfin, de pouvoir obtenir une standing ovation de la part des voitures.
Je pense que, ouais. Il y a quelques décapotables qui se sont manifestés, mais c'est tout.
Ouais. Là, il aurait fallu toute l'équipe de Optimus Prime, tu vois. Et...
Ouais. En fait, nous c'était les jeux de lumière. Les gens flashaient quand ils aimaient beaucoup le numéro. Ah,
c'est bien d'avoir trouvé ce palliatif, tu vois. Mais clairement, on ne sera jamais content jusqu'à ce qu'on nous redonne le vrai live, tu vois.
Ben oui, c'est ça qui est... Et même, j'ai peur que même s'ils me permettent... Comme là, ici au Québec, il y a des zones rouges, oranges, jaunes. Il y a des... Les régions maintenant sont en zone orange, donc les salles ont réouvert dans le nord de la province. Puis il y a certains humoristes qui vont aller se donner en show. Mais je ne sais pas encore c'est quoi la limite de personnes. Je pense que c'est maximum 100 ou 150 personnes, ce qui est quand même pas mal.
Ouais, ouais.
Mais après, c'est loin. T'sais, c'est des 10 heures de route, 12 heures de route.
Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Mais après, peut-être que Montréal, tout ça, va passer en zone plus libre, entre guillemets, en zone orange au moins.
Ouais, on espère pour l'instant, c'est encore très rouge, mais ils pensent tranquillement, pas vite, déconfiner. Je pense pour l'été, parce que l'été, c'est inévitable. Comme ici, on a 2 mois d'été, les gens, si tu leur enlèves leurs 2 mois d'été, ils deviennent fous.
C'est surtout sûr.
Après un hiver comme celui-là, donc ils savent que les gens ils vont avoir besoin de ça cet été, donc ils commencent tranquillement à déconfiner, réouvrir des trucs.
Ouais, mais je pense que de toute façon, pour l'été, à mon avis, ce qui va se passer, c'est surtout des plein air aussi, tu vois.
Ouais, les plein air et tout. Et même pour les achats, je ne sais pas si c'est comme ça vous, en France, mais nous, on ne peut plus acheter ce qui n'est plus nécessaire.
Ah, ben nous, pour le moment, non. Ce qu'ils ont fait là, il n'y a pas longtemps, ils ont décidé de fermer les grandes surfaces non alimentaires. Donc, de ce côté-là, c'est la même chose. Mais uniquement celles qui font plus de 20 000 mètres carrés.
Ok.
Tu vois, donc c'est une question de surface, en fait. Si elles sont trop grandes, ils les ferment, tu vois. Dans les centres commerciaux, par exemple, tu peux pas aller, je sais pas moi, chez Nike ou un truc comme ça, tu peux pas y aller, quoi, tu vois. T'es obligé d'aller que dans les magasins qui vendent de la nourriture, quoi. Mais sinon, dans le magasin en lui-même, par exemple, moi, j'étais chez Carrefour, je sais pas trop c'est quoi l'équivalent chez vous, je suis désolé.
Métro.
Voilà. Bah oui, bon, voilà, on va dire métro, quoi. Et donc, dans le magasin, tout ce qui est non alimentaire reste quand même accessible.
Ah non, nous, il
ouais, ils mettent du film autour et tout. Ouais, ouais. On a eu ça, mais au mois d'octobre. Tu vois, octobre, novembre, là, c'était comme ça. Quand tu allais dans un magasin, tu avais des rayons où c'était tout fermé et tout. Et ils ont prévu le coup qu'il y ait des malins, tout ça. Ils ont dit pas la peine d'essayer de passer votre article à la caisse. Le code barre est désactivé, tu vois.
Ah ouais, ouais.
Et oui, donc c'est des malins. Ben, on a eu ça, en fait, mais bon, c'est n'importe quoi. Tu sais, mon boulot alimentaire, c'est chauffeur de bus. Et dans mon bus, j'ai du monde, des fois, jusqu'au pare-brise. Tu vois, c'est pas normal.
C'est non, pas normal. C'est absurde aussi parce que je veux dire, on s'entend que t'es dans le magasin, t'es là déjà. Donc
déjà, voilà, ça sert absolument à rien. Et moi, je te dis, dans mon bus, j'ai du monde jusqu'au pare-brise. Il n'y a pas un centimètre entre chaque personne. Tu sais, quand je fais l'heure de pointe le matin, t'as du monde de partout. On va pas les refuser, tu vois. Après, quand je pense au théâtre et on te dit non, les théâtres, c'est trop dangereux, t'as envie de dire bah non, parce qu'il y a une place entre chaque spectateur. Ce qui nous avait fait, en fait, au premier déconfinement, c'est qu'ils nous avaient dit vous pouvez mettre des groupes. Et une place entre chaque groupe. C'est-à-dire, si tu viens en couple, vous pouvez vous mettre à deux côte à côte et ensuite une place d'écart entre vous et le prochain couple, tu vois. Ou si vous venez entre amis, je crois que c'était dans la limite de 5 personnes. Donc, tu pouvais mettre des groupes de 5 personnes maximum séparés par une seule place. Là, ça allait avec le masque et tout. Tu vois, enfin, y avait vraiment des belles choses avec du gel à l'entrée et tout. Pas de problème. Et il y a eu zéro cluster dans les théâtres, tu vois. Mais là, en France, ben, on marche sur la tête. Hein. Ils laissent ouverts les centres commerciaux où il y a tout le monde qui se mélange et tout. Les bus remplis, les tramways remplis. Et par contre, les salles de théâtre, les cinémas, les musées, non, là, ça, par contre, c'est trop dangereux.
Ouais, c'est un peu absurde leur décision. On dirait que tu vois, qu'ils ne savent pas trop gérer des pandémies. C'est du essai-erreur. Hein. Ils essaient un truc, ils se trompent, ils changent.
Pour leur défense, c'est leur première pandémie. On ne va pas se mentir.
C'était un politicien de la grippe espagnole qui aurait pu nous donner des conseils, mais je pense après moi, ils sont tous morts.
Ah ben ouais, malheureusement, oui. Et peut-être qu'ils sont morts de la grippe espagnole, c'est ça le
sujet. Exact.
Bon, ben écoute, on va espérer que ça reprenne. Et puis voilà, hein, parce que là... Là, moi, franchement, je commence à péter un câble. C'est pas pour autant que je laisserai tomber. Hein. Même si ça doit prendre un an de plus, j'attendrai de remonter sur scène. Mais vraiment, c'est dur, quoi. C'est dur.
Ouais, c'est surtout dur pour les humoristes qui font que de la scène, parce que ouais. Mais moi, je me considère quand même chanceux, parce que j'ai l'opportunité de faire de la télé, de la radio et tout. Donc, comme les studios sont encore ouverts, tu sais, ça nous permet de travailler, oui. mais j'ai des potes qui, tu vois, ils sont à la, je peux dire, à la dèche, là. Ils attendent. Ils ont donné, par contre, ça, j'ai trouvé ça sympa, il y a une nouvelle loi qui on nous rembourse 75% de nos billets vendus dans les salles, dans les shows qui ont été annulés durant la période de Covid.
C'est bien, ça.
Ouais, moi, j'ai reçu 75% d'à peu près une trentaine de shows. Ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé de les refaire. En fait, c'est vraiment juste...
Ah ouais, donc c'est super. C'est super.
C'est l'argent gratuit.
Ah ben c'est bien. Mais écoute, moi, pour ma part, ouais, si jamais je devais recevoir 75% des billets que j'ai vendus, bah, je pense que j'aurais de quoi me payer un McDo ou deux. Hein.
Oui, facilement. Aussi.
Oui, ça va. Franchement, je n'irai pas jusqu'à m'avancer à dire que j'aurai le dessert, mais je peux penser avoir un petit sandwich ou deux. Tu vois, ça, il y a moyen.
Oui. Du coup, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des humoristes qui essaient de se booker des shows. Ils se bouquent des shows volontairement pendant la période.
En espérant que ce soit annulé et tout. Oh, punaise. Ah oui, ouais, non, mais il y aura toujours des filous, tu vois, qui vont essayer d'escroquer le système, quoi.
Eh oui, toujours des malins.
Mais c'est quand même bien, ouais, voilà, les humoristes, surtout qui dépendent que de l'humour, c'est vraiment bien, ouais, qu'il y ait ça. 75%, c'est mieux que rien, hein, évidemment.
Ouais, ouais, c'est vraiment chouette. Puis ça te permet aussi, tu peux refaire le spectacle, tu peux le reprogrammer avec la salle. Et donc à l'année prochaine, donc ça te permet de faire le spectacle une fois, de recevoir les bénéfices du spectacle que tu joues et en plus les bénéfices du spectacle qui a été annulé.
C'est très bien. Mais chez vous, j'ai l'impression que c'est mieux géré que chez nous. Et puis l'humour, la culture, tout ça, vous la prenez plus au sérieux que nous, j'ai l'impression.
Au niveau du stand de l'humour, oui. Je pense qu'il y a d'autres médiums artistiques qui sont moins reconnus. Tu sais, le théâtre en France, c'est très, très, très gros, c'est important, les gens se déplacent, il y a une grande consommation du théâtre. Au Québec, c'est beaucoup plus minime.
Ben, malheureusement, en fait, en France, tout est mis sur le théâtre. Tu sais, les compagnies, elles sont subventionnées, tout ça. Les théâtres nationaux, ils reçoivent... Là, si tu veux, les théâtres nationaux, même s'il y a zéro spectacle, ils sont subventionnés par l'État, donc ça va. Mais tout ce qui est café-théâtre, tout ça, où les gens comme toi et moi, on joue... ben voilà quoi, il y a rien, ils ont rien, les pauvres, ils sont à la rue, malheureusement. Mais en France, il y a un dédain, malheureusement, il y a un dédain pour le stand-up, tout ça, tu vois, pour le spectacle vivant. Enfin, pas tout le spectacle vivant, mais genre le stand-up, tout ça, le one-man show. Il y a un peu un dédain de la classe, de la haute société, tu vois, qui pense que le théâtre, ça doit se limiter à Molière, Shakespeare, tu vois, Feydeau, tout ça, mais pas de création personnelle, malheureusement. Ils sont un peu méprisants avec nous, et c'est ce qui fait que là, on est en galère, tu vois, on n'a rien pour jouer, et on nous prête aucune attention, quoi.
Ouais, j'avais déjà entendu, je pense, je parlais avec Jason Brokers, puis il me disait la même chose. Et alors qu'ici, c'est dingue, c'est l'inverse. Les gens sont, ouais. sont... La culture de l'humour est très grande ici. Les humoristes sont partout. C'est maintenant, si tu veux... Tu sais, moi, quand j'étais au lycée, je voulais faire de la radio, je voulais faire de la télé, je voulais faire du cinéma, je voulais faire du journalisme. Puis je regardais mes options, puis je me dis, tu sais quoi, je vais juste devenir humoriste, je vais tout faire. Ici, ils nous veulent dans les émissions de radio, télé, ils nous demandent de faire des chroniques dans les journaux. On dirait qu'il y a comme une maladie de l'humour, c'est maladif, leur désir de rire. Je sais pas si c'est en lien avec la température, mais déjà beaucoup rigolé.
D'accord. Ben écoute, nous ici, pourtant, il y a vraiment une grosse demande au niveau des humoristes aussi, parce qu'on en a beaucoup dans les radios, dans les émissions de télé, tout ça. Ils prennent des chroniqueurs et tout. Il y a vraiment une grosse demande, ça se développe. Mais je sais pas, c'est plus au niveau gouvernemental et tout. On est considéré comme des saltimbanques, quoi. On n'est pas des vrais comédiens. C'est ça le, tu vois, pour eux, comédien, c'est uniquement si tu joues Hamlet ou je sais pas quoi, tu vois.
On continue. C'est une question de temps, hein.
Ouais, bah, on espère, et c'est pour ça qu'il faut pas qu'on lâche. Hein. Moi, j'en parlais hier avec un ami, le pauvre, un humoriste qui est du côté de Metz. Metz, donc c'est dans le nord-est de la France. Il me dit là, ça me trotte dans la tête de tout laisser tomber, quoi.
Ben oui, mais il y en a beaucoup qui... Moi, j'ai des potes qui sont revenus à leur boulot d'avant, qui ont commencé à vendre des voitures, ils ont commencé à faire d'autres trucs. C'est ce qui est dommage. J'espère de tout mon cœur que quand ça va reprendre, ils vont revenir sur la scène. Mm-hmm. Mais il y en a qui n'ont pas eu le choix de...
Ouais.
Ça brise le cœur un peu de voir ça, mais bon.
Ben, je comprends. Mais après, honnêtement, quelqu'un, par exemple, qui en ce moment n'a aucun show, ne peut rien faire et repart vers un métier alimentaire, je comprends tout à fait, parce qu'il faut remplir le frigo, tu vois. Donc, on est obligé de travailler, on est obligé de pouvoir s'assurer une rentrée d'argent. Mais par contre, si, quand le stand-up reprend, ils reviennent sur scène, aucun problème, là, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me fait vraiment mal, c'est les gens qui, dès maintenant, savent que même quand ça reprendra, ils ne reprendront pas, tu vois.
Ouais. Et vous êtes, bah, tu dirais, vous êtes quand même, il y a beaucoup d'humoristes français. Bon, évidemment, vous êtes plus nombreux, donc vous avez plus de public à couvrir, mais déjà, je pense, en temps normal, est-ce qu'il y avait assez de plateaux, de boulot pour tout le monde
ça dépend, en fait. Moi, tu vois, je suis à Bordeaux, exactement. Je suis pas à Paris. Nous, à Bordeaux, on a monté notre petit comédie club à nous. Franchement, ça va, tu vois. Enfin, c'est un ami à nous qui a monté un café-théâtre et on a monté notre soirée, notre plateau scène ouverte. Non, c'est même pas un plateau, c'est une scène ouverte. Et donc, on faisait ça tous les jeudis. On avait une cinquantaine ou une bonne cinquantaine d'humoristes ici, mais on est une petite ville, tu vois. Après, tu as des villes comme Nantes. Nantes, c'est très, très actif au niveau du stand-up. Là-bas, ils ont carrément un plateau chaque soir, tu vois. Donc, vraiment, ils sont forts. Après, il y a Lyon aussi. Lyon, qui est très, très bien desservi à ce niveau-là. Et bien sûr, le top, ça reste Paris. Paris, là, tu as plusieurs plateaux tous les soirs et tout. Après, au niveau des comédiens, il doit y avoir peut-être 2000 stand-uppers en France, je pense.
Ouais, c'est pas mal. Mais j'ai vu aussi qu'il y a des humoristes qui voyagent encore, qui vont à Dubaï ou qui vont... Martin, je pense qu'il y en a en ce moment en Martinique.
Nordine, il est en Martinique, ouais.
Ouais, je trouve ça cool. Moi, c'est pour ça que je veux déménager. T'sais, techniquement, si ce n'était pas du Covid, dans 6 mois, je déménageais à Paris.
Ah ouais.
Parce que je trouve qu'en France, tu as accès à un marché qui est beaucoup plus grand, puis en plus, tu as accès à tout le marché du Maghreb, de l'Afrique, bon, toute la
Ouais.
francophonie. Puis
D'accord.
c'est ça que moi, c'est nous, des fois, quand on a des spectacles, on fait des 12 heures de route pour aller jouer à un endroit où il fait au moins 40. Puis je vois mes
Ouais,
potes
ouais.
ils sont à Dubaï, ils sont au Sénégal, ils sont.
Ouais, je comprends, je comprends.
Ouais, donc au moins il y a ça. Moi, ils m'ont proposé aussi d'aller jouer à l'extérieur, sauf que ici, il faut respecter évidemment le 2 semaines de retour. Puis
Ouais,
ça
quarantaine, ouais. Oh,
Ouais, puis après, ils te surveillent quand même très bien. Donc, tu peux plus travailler, en fait. Tu condamnes 2 semaines.
ouais, c'est ça le problème. Ben, peut-être qu'une fois que tout ça sera passé, tu pourras quand même venir t'installer en France quelques temps, un peu comme a fait Rachid Badouri. Quand il est venu jouer ici, il est resté pas mal de temps et puis après il est reparti au Québec. Voilà.
Ouais, c'était ça mon plan. Je pensais déménager pour une longue période quand même parce que tous les humoristes québécois qui sont allés en France, qui se sont établis un peu là-bas, ils m'ont tous dit la même chose. Il faut que tu restes longtemps. Tu peux pas faire des allers-retours, des 2 mois, 3 mois. Donc j'avais prévu rester pour minimum 3 ans.
Ah ouais, bah c'est bien. Bah écoute, il n'y a rien de définitif. Je veux dire, là, tu peux
Oui,
encore le
oui.
faire après. Ouais, voilà. Tu seras le bienvenu. Hein. De toute façon, si jamais tu vas jouer à Paris, ben tu vois, tu prendras certainement comme Rachid, quand il était venu, il avait pris l'Alhambra, il jouait à l'Alhambra. Tu vois, tu pourras te prendre un théâtre. Un café-théâtre ou un théâtre fixe, tu vois, tu joueras tous les, je sais pas moi, 3 fois par semaine ou 5 fois par semaine ou quoi, et puis après rien ne t'empêchera d'aller faire des comédie clubs en province, des apparitions en guest et tout, ça pourrait être sympa. Mais franchement, je suivrai ça avec grand plaisir, et puis ben, j'espère qu'on pourra faire ça. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Tu as aussi Sugar Sammy qui est chez nous maintenant.
Ouais.
Ah, lui c'est une machine de guerre aussi, hein. Tu vois, il a fait je sais plus combien de pays, 40 pays ou 37 pays. Ah, il est fort, il est vraiment fort, quoi.
Ouais,
Et
Sugar,
ouais, bah,
il a fait, il joue partout.
il est très très fort, c'est clair. Moi j'ai joué, je me suis retrouvé par hasard à Paris une fois. Je faisais la scène ouverte du Jamel Comedy Club, donc c'est le mardi. Et je vois tous les collègues et tout, et j'en connais la plupart. Et je vois Sugar Sammy, que je connais pas du tout. Et je le vois et je dis, tiens, bon, ben, un nouvel humoriste que je connaissais pas. Le mec, je le vois sur scène et il a flingué la salle. Et j'étais là, genre, ah non, il n'est pas nouveau, lui.
Non,
Ah non, il n'est pas nouveau. Et j'ai discuté avec lui et il était super gentil. Et je l'ai revu quelques années plus tard quand il est venu s'installer ici. Parce que là, c'était un peu un coup d'essai pour lui, tu vois. Il était venu juste quelques mois et il était reparti. Et après, je l'ai revu, on a joué ensemble dans un plateau ici qui s'appelle l'Underground. Et on s'est retrouvé là-bas, on a discuté. J'ai vraiment beaucoup aimé parler avec lui. Et tu sais, il est resté super accessible et tout. Alors que le mec, voilà, même en France, il s'est installé. Maintenant, il est devenu une superstar ici aussi, tu vois. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ouais. Il est vraiment fort. Et voilà, je veux dire, il a pas eu peur de venir conquérir quelque chose de nouveau. Et puis voilà, je lui ai dit, mais comment tu fais pour t'adapter dans chaque pays? Comment tu fais avec ton stand-up? Je lui ai dit, est-ce que tu as le même stand-up ou pas? Et il m'a dit, franchement, il me dit, il y a un gros pourcentage de trucs que tu vas pouvoir exporter partout. Tu vas pouvoir vraiment jouer partout les mêmes blagues. Et il me dit certaines choses, il va falloir trouver les référents. Tu vois, les référents, ça va pas être les mêmes. Donc forcément, il va falloir que tu t'intéresses un peu à la vie du pays. Tu vas découvrir un petit peu des petites manies qu'ont les gens, des expressions. Et il me dit, tu vas les ajouter à ton stand-up. Mais sinon, la plupart des blagues, elles sont, tu vois, tu peux les garder, quoi.
Oui, mais même moi, quand je vais à l'étranger, ce que je fais, c'est que, mettons, quand je vais à Paris, je m'installe avec Roman
Ouais.
à un café, puis je lui lis mon texte, puis il me dit, ah non, ça, ils comprendront pas, ça, ils n'ont pas le référent. Puis après, je vais chercher les référents. Des fois, je fais des blagues, je comprends même pas les référents que je donne parce que je les ai adaptés. J'avais une blague, j'étais au. Je m'en rappelle plus, c'était où? C'était pas le Grand Rex, il y en a une autre salle, en
Ouais.
fait, c'était pour le FUP. Puis bon,
Ouais.
ici on a une ville qui s'appelle Longueuil, qui est au nord de Montréal, où voilà, c'est des gens qui, nous on appelle ça, ben c'est des douchebags en fait. Je sais pas si vous
Ouais.
avez, c'est des douchebags. Et de l'autre côté de Montréal, il y a une autre ville qui s'appelle Laval, où
Oui.
c'est aussi, ils sont reconnus là, c'est aussi des douchebags. Et donc j'essaie de trouver le référent, puis je me suis retrouvé à faire une blague où je disais, alors ouais, mon cousin c'est une Kaira, mais une vraie Kaira, genre il habite dans le 93, mais il a une maison de campagne dans le 95. Et puis, tu vois, les gens, ils riaient, je comprenais même pas ce que je voulais dire.
Oui, parce que le 93, en fait, c'est un département de Paris, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est le quartier d'où vient. Tu connais le groupe NTM?
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc NTM, ils viennent du 93, tu vois. Et Après le 95, moi j'aurais plus dit le 77, tu vois, parce que le 95, c'est le Val d'Oise, ça reste quand même un peu chaud, tu vois. Ça reste un peu chaud. Alors que le 77, la plupart du temps, les humoristes font des blagues sur la Seine-et-Marne. Le 77, c'est un peu plus campagne, tu vois.
C'est mais c'était ça la blague, c'est qu'en fait, ouais, il a une maison de campagne dans un autre quartier chaud. Donc c'est...
D'accord, pardon, excuse-moi. Je croyais que tu voulais dire qu'il jouait la Kaira dans le 93, mais que le week-end, il allait se détendre dans le 77.
C'est une vraie Kaira.
Donc il est Kaira. Ah oui, d'accord, excuse-moi, j'avais pas compris du coup. Je pensais que le référent était pas bon au final. D'accord, ok. Ah non, mais bonne vanne. Bah, oui, ça devait être marrant de voir les gens rire et que tu comprennes même pas ce que tu disais, quoi.
Non, c'est ça, ça a l'air en direct là. Traduction fait bien faite.
Non, ça va.
D'accord. J'ai compris aussi qu'il fallait m'adapter parce que, même au niveau des termes, il faut s'adapter parce que je trouve le public français, tu les perds très rapidement s'il manque un mot. Puis tu sais, déjà, avec l'accent québécois, tu veux pas non plus que les gens rient parce que t'as juste à cause de l'accent. Puis à un certain moment, j'étais à un spectacle aussi pour le FUP. Puis. Et je commence une vanne, puis je dis bon, je suis allé dans un magasin, je me suis acheté des souliers, et là les gens se mettent à rire, et moi je comprends pas pourquoi ils rient. Je dis ben attends, il est pas là le punch. Et ensuite je redis une autre fois souliers, ils se mettent à rire. Finalement je fais mon punch, et le punch marche moins bien que quand je dis souliers. Et je sors de scène, puis je pense que c'était Ahmed Sparrow qui se fait rire. Ouais. Ouais, non. Et Boone aussi, il riait. Pourquoi vous riez ? Il dit, mais personne dit soulier. On dit chaussures.
Ouais, chez nous, en fait, soulier, c'est très, très soutenu et tu sais, très ancien, tu vois.
Ouais.
C'est un peu comme sabots et tout, tu vois, des sabots, voilà quoi.
Ah non, nous, c'est des magasins de souliers, je pense. On n'a pas encore loadé à ce niveau-là.
Non, ouais. Non, mais de toute façon, je pense que c'est bien connu. Hein, au Québec, vous parlez même mieux français que nous, au final, tu vois. Vous utilisez les vrais termes et tout. Ça, je sais que vous êtes... Enfin, la langue française au Québec est mieux préservée qu'en France. Hein.
Oui, parce que ça, en fait, elle a évolué après en France. Puis ici, on a gardé les vieux termes.
Mmh. Oh, mais c'est pas grave. Hein.
En fait, quand tu m'as contacté pour me demander de parler d'anecdotes où j'avais galéré, il y en a une qui me revient tout le temps parce que c'est probablement la plus grosse claque que je me suis pris sur scène. Uh-huh. C'était une soirée à Montréal qui s'appelle le Brouhaha, tu vois, une espèce de comedy club très classique, avec à peu près 100-150 personnes. Puis moi, je débutais dans le milieu, puis je voulais aller jouer, mais ça se passait quand même bien. J'avais un bon 10 minutes que je venais d'écrire, que je roulais un peu. Puis j'ai une fille que je rencontre par hasard dans une autre soirée, puis je l'invite à venir voir le show. Et c'était notre première date, en fait. Je l'ai invitée. Uh-huh. Moi, c'est un truc que je fais, j'invite des filles en date à des spectacles. Comme ça, je me laisse un peu plus de chance que ça marche. Je me dis peut-être s'ils aiment pas la personne, mais qu'ils aiment le numéro, ça se peut que ça marche. Et je l'ai invitée, puis elle était toute seule, donc elle était assise dans la salle, puis je commence mon numéro, puis ça se passe bien, puis il y a une meuf qui parle première rangée, puis elle parle, elle n'arrête pas de parler. Mais certainement, je lui demande gentiment de se taire, t'es comme on fait, les humoristes souvent vont faire une blague pour pas que ce soit trop brut de dire aux gens de fermer leur gueule. Et elle continue à parler, avec ses amis, mais comme elle est très proche de la scène, moi je l'entends bien, mais le reste de la salle ne l'entend pas parler, donc je me fâche vraiment, puis je commence à l'engueuler, mais vraiment comme de la merde. Je lui dis de fermer sa gueule. Et après, je suis parti, je ne sais pas pourquoi, j'avais eu une mauvaise semaine, je suis parti sur une espèce de speech de « Est-ce que tu sais à quel point c'est difficile de monter sur scène, ça demande du courage de présenter des textes ?» Tu vois, ça a un peu alourdi l'ambiance. Puis, certainement, je dis « Regarde, juste pour te prouver à quel point t'es une conne, je vais dire t'es une conne et tout le public va m'appuyer. » Et là je fais 1, 2, 3 et là silence de mort. Il y a personne qui suit et genre mais un froid que j'ai pris, je te dis, je l'ai senti jusque dans ma colonne vertébrale. Et il y a juste un mec en arrière qui se met à rire, il fait "You got served" en anglais.
Ouais.
Et là, j'ai figé, je ne savais plus quoi faire. Il y a même un autre humoriste qui s'approchait du DJ booth pour dire au DJ, genre, vas-y, balance la musique, il va
balance
sortir.
Balance quelque chose, oui, voilà. Sauve-le. Un nouveau film, il faut sauver le soldat Boussaïdan.
Voilà. Il faut le laisser crever. Et finalement, j'ai repris mon numéro de peine et de mal. Et j'ai réussi quand même à récupérer le public, mais ça m'a pris plus de temps. Et comme on est à Montréal, ben, comme partout, je pense, on est très strict sur le temps. Donc, quand on te demande de faire 10-12 minutes, c'est 10-12 minutes.
C'est pas, ouais, tu peux pas déborder, ouais. Mais du coup, le mec, il t'a dit « you got served », c'est-à-dire dans le sens « bien fait pour toi », c'est ça?
Ouais, c'est bien fait pour ta gueule.
Oh. Et là... J'avais cru, quand tu m'as dit qu'il y avait un mec qui avait parlé, j'avais cru que c'était ton seul soutien à ce moment-là.
Ah non, c'est la seule lueur d'espoir m'a insulté. Et là, j'ai recommencé. Mais... pour les récupérer, ça m'a pris... J'ai perdu le fil, donc comme j'étais en mode survie, j'ai perdu le fil et finalement je finis mon numéro, je sors de scène, puis t'as la boss de la soirée, donc la bookeuse, celle qui organise, qui vient me voir et elle me dit « Mehdi, on t'a demandé de faire 8 minutes et là tu nous as fait, je pense, 27 minutes ». Elle m'a dit, c'est la dernière fois que tu me fais ça. Et après, elle m'a bloqué pendant quelques mois de ce comedy club-là. Et après, je suis allé voir la meuf avec qui j'étais en date et il y avait quand même froid. Elle m'a dit, mais en fait, t'es vraiment méchant, toi. Ça a été une dure soirée. Après, j'ai compris aussi, c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Puis j'ai appris à mieux gérer ces gens-là, donc les hecklers ou les heckleuses ou juste des gens qui dérangent et qui parlent. Même des fois tu tombes sur des hecklers terribles. Une fois je faisais un spectacle en prison pour une prison ici à Montréal et il y avait donc une section pour femmes dans la prison et je devais faire un numéro pour les femmes, donc une heure de spectacle et bon voilà, donc c'est un mec qui arrive, donc j'étais quand même un peu plus jeune, j'étais bien habillé, tu vois, puis je suis pas non plus un monstre de laideur, donc ça, il y a je monte sur scène et je commence à faire mon numéro et elles font juste crier danse 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 danse. je me suis fait balancer tous les trucs, enlève ton chandail, et certainement je dis regardez mesdames, je vous promets, si vous me laissez faire mon heure de show, à la fin, je vous fais une danse. Évidemment, j'ai dit ça juste pour qu'elles ferment leur gueule. Et bon, je fais mon show. Et certainement, même, j'étais sur l'espèce de scène. Ben, je dis une scène, en fait. C'était dans une espèce de gymnase où ils s'entraînaient. Puis, ils m'ont mis... c'était quasiment une petite table avec un speaker. À la fin, je finis et je viens pour m'en aller. Ils se mettent à crier. « Hey, tu nous as promis une danse !» Et là, je fais « Bon, ben, j'aurais bien aimé, mais il n'y a pas de musique. Donc, je ne peux pas danser. » Crois-le ou non, il y a un gardien qui sort... Il sort, il fait « Non, non, attends, attends !» Il sort, il va chercher une radio, il amène la radio, il la part. Donc là, je suis là en train de danser, je ne sais pas trop ce qui se passe, il y a des femmes qui sont là en train de baver, puis de clapper des mains en fixant. Là, je me dis « Mais quel métier ? Quel métier ?»
Tu t'en es servi sûrement pour faire un nouveau set.
Pas encore, c'est la seule fois que je le répète.
D'accord, bah écoute, ça peut être marrant que les gens. Tu sais, moi je sais que ce qui m'a une des choses qui m'a donné envie de faire ce podcast, c'est quand j'ai entendu Danny Boone, tu vois, qui est une grosse star chez nous. Ouais, Danny Boone qui fait de l'humour depuis ça doit faire 30 ans qu'il fait de l'humour ou un truc comme ça. Et donc il a raconté une de ses premières scènes galères. Il parlait c'est un sketch qu'on peut trouver sur YouTube, je crois, qui s'appelle Le Centre Culturel. Et donc en gros il explique une anecdote et il dit je vous jure que c'est vrai et tout. Bon, j'imagine qu'il en a rajouté un petit peu, mais le gros de l'histoire est vrai, c'est qu'en gros il a joué et il y a carrément le chien du bar qui a cru qu'en fait il attaquait la caisse, parce qu'à un moment il a sorti un pistolet à blanc, c'était dans ses accessoires, et il a tiré deux coups de feu pour que les gens se taisent, tu sais, et le chien a cru qu'il attaquait la caisse, il lui a sauté dessus, il a commencé à le mordre, tu vois, et donc il raconte ça et tout. Et il dit donc à la fin, il dit je pars en cuisine et tout, donc pour me faire soigner entre guillemets, il dit je reviens. Et à ce moment-là, donc le chien, le propriétaire l'a mis dans sa voiture et tout. Et il dit, je commence à jouer. Et là, il n'y a pas un seul rire, il n'y a rien du tout. Et il dit, à ce moment-là, il y a un des mecs bourrés qui était là et qui me regarde et qui fait, et le chien, il ne joue plus. Il pensait que c'était prévu, quoi.
Alors, c'est toujours risqué d'avoir des fausses armes.
C'était quand il a débuté, donc ça devait être dans les années 90, genre début 90, un truc comme ça, fin des années 80, je pense. Ouais. Et quand il a raconté cette anecdote, moi j'étais mort de rire parce que ce qui m'intéresse vraiment dans les grandes histoires des humoristes, c'est justement comment ils se sont construits et comment ils ont résisté aux galères et tout. Et c'est ça qui m'a donné l'idée il y a des années. C'est une des choses qui m'a donné l'idée de lancer ce podcast. En tout cas, ouais, c'était vraiment pas mal ces anecdotes là, oui, avec la prison et tout. Mais quelque part, heureusement que t'as fait ta danse, tu sais, parce que si ça se trouve, si t'étais parti, elles auraient eu qu'une seule envie, c'est de s'évader, mais pas pour retrouver la liberté, pour retrouver Mehdi Boussaïdan,
oui,
tu vois.
Et il va me trouver. Il faisait aussi pour les hommes un peu plus tôt dans la journée. Et il y a un mec comme ça à la fin, je sais pas pourquoi, ils leur ont dit si vous voulez, vous pouvez aller lui serrer la main. Je dis, ah non, mais je. Et là, il y avait genre une centaine de mecs en ligne qui passaient, ils me disaient bon spectacle. Puis il y a un Italien qui est venu me voir à la fin, qui avait l'air d'être le plus respecté des hommes. Et il m'a dit, toi là, t'es drôle, hein. Quand je sors du site, là, je vais venir voir ton show. Je dis, merde. J'avais envie de dire, oui, oublie pas mon nom, hein, Rachid Badouri. mais pour revenir à Danny Boone, là, le truc des guns, parce que j'ai une anecdote aussi là-dessus, parce que moi je me suis fait arrêter comme ça. En fait, c'était pas un. J'avais un spectacle, en fait, j'avais un tournage, pardon, pas un spectacle, mais on faisait une espèce de sketch humoristique. En fin de journée, puis à l'époque, j'étudiais à l'École nationale de l'humour. C'est là que j'ai fait ma formation. Okay. Puis je me suis pointé à l'école. Puis pour le tournage, bon, on faisait une espèce de sketch braquage de banque, série policière. Donc j'avais amené des armes factices, mais quand même assez réalistes, que j'avais louées dans un magasin. Mm-hmm. Et je les ai amenées à l'école. Et l'École nationale de l'humour, c'est au septième étage d'un building. Donc il n'y a pas que l'École nationale de l'humour, il y a beaucoup d'autres entreprises. J'ai comme caché les armes qui sont quand même assez longues. Je les ai cachées dans. J'avais pas de boîte assez grosse pour les mettre. Je les ai entourées dans un drap. Uh-huh. Et je les ai amenées à l'école.
Oh, parce que... Un arabe avec des armes dans un drap. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça se passe mal? Je comprends pas.
J'ai oublié. Des fois, j'oublie que je suis arabe. Comme ça, j'oublie ce détail. Et quand je suis arrivé donc en classe, je les ai mis dans mon casier, je suis allé en classe et ça a été quand même rapide. 15 minutes, peut-être 20 minutes plus tard, la porte se fait défoncer, puis il y a la SWAT.
Oh là là là.
La SWAT, je ne sais pas c'est quoi, comment vous l'appelez vous
Je crois que l'équivalent chez nous, ça doit être le GIGN.
GIGN, ouais, c'est les plus dangereux. C'est ceux qui ont tous un lourd passé. Puis... Même leurs chiens, ils ont fait de la prison, tu sais. Et... Il débarque et il y a un berger allemand qui me jappe dessus et tout. Puis le mec qui crie « Est-ce que quelqu'un a amené des armes aujourd'hui à l'école ?» Oh. Et là, j'étais assis au fond de la classe. Je te jure, Sofiane, j'ai figé. J'ai vécu un moment, je ne savais plus quoi faire. Soit je lève la main, soit je prends un otage.
Bon, t'as pris qui en otage?
Tout le monde était plus fort que moi, je ne pouvais rien faire. Mais ils m'ont arrêté, hein. Ils m'ont passé les menottes, ils m'ont amené au casier. Bon, quand ils ont constaté que c'était des armes factices, ils se sont calmés, ils m'ont démenotté. Mais après, ce qu'ils ont fait, c'est que pour arriver au septième étage du building, ils ont évacué les six premiers étages. Et donc, c'est quand même un gros building, donc c'est beaucoup, c'est des centaines de personnes qu'ils ont évacuées genre, en rampant. Parce qu'ils leur ont expliqué qu'il y a un homme armé qui s'était introduit dans l'édifice et qui ne savait pas exactement il était où. Donc les gens étaient complètement traumatisés. Et déjà, la SWAT, ils ne les sortent pas souvent. Alors. Et là, ils m'ont fait faire une parade, je pense. Le but était de m'humilier. Tous les gens qui attendaient, ils les ont mis dans un corridor. Et moi, je marchais et ils m'ont fait passer devant eux.
Ouais, le walk of shame, quoi.
Ouais, les derniers, the green line, comme ils disent, les derniers pas d'un condamné. Et après, j'ai vu, en sortant du building, il y avait tout le périmètre était fermé. Il devait avoir, je te jure, je te niaise pas, il devait avoir 150, 200 policiers qui étaient là avec leurs armes braquées et tout. Et il y avait les médias aussi. Heureusement, j'étais chanceux, je leur ai demandé de me démenoter parce que j'ai dit, il y a des médias en avant là, qui vont prendre des photos pour les journaux. Et je dis, je suis même pas encore un humoriste connu. Bon, ils m'ont amené au poste de police, puis bon, après ils m'ont expliqué que ça ne se faisait pas. Mais ils ont regardé les caméras de surveillance et ils ont vu que comme j'étais caché, effectivement, on ne pouvait pas voir ce que j'avais dans mes mains et que je n'ai jamais utilisé une de ces armes pour faire peur à quelqu'un ou pour essayer de braquer quelque chose. Ils m'ont relâché, ils m'ont dit que c'était juste un avertissement.
Oh là 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 là.
Mais ça après, évidemment, le soir même, Donc, je suis sorti du poste de police. Je suis allé m'excuser auprès de des autres étudiants. Ouais. Puis, je suis allé chez moi. J'ai écrit un numéro direct. Je suis allé le jouer le soir même. Uh-huh. Et puis, ça a cartonné. Puis, c'est un numéro que j'ai retravaillé. Puis, que j'ai gardé pour mon spectacle que je roulais en ce moment.
D'accord. Bah, c'est génial, ça. Est-ce qu'il y a une vidéo de ce numéro sur Internet?
Je pense qu'il y en a... Ouais, je pense qu'il y en a une. Je pourrais t'envoyer le lien. Ouais. Je crois qu'elle est quelque part. Ouais.
Et ben, si tu peux me trouver le lien, je le mettrai dans la description de l'épisode. Et franchement, c'est waouh. C'est, enfin, je veux dire vraiment là, ce qui t'est arrivé, on dirait vraiment le scénario d'un film hollywoodien, quoi.
Oui, je te jure. C'est avec du recul que c'est incroyable parce que ça va tellement vite quand ça arrive que tu t'en rends pas compte. Mais après, j'ai vraiment pris le temps de ça, c'est le truc qu'il faut faire quand il t'arrive quelque chose. L'urgence d'écrire. Moi, c'est un prof à l'école qui m'a dit « Mehdi, quand tu performes sur scène, il faut toujours que tu aies l'urgence de dire quelque chose aux gens. Si tu n'as rien à dire, ne va pas jouer. Ne perds pas ton temps. Attends que tu aies quelque chose à dire. » Et ça, je suis allé, je te dis, ça me rongeait. J'étais au poste de police, t'as le détective qui me crie après parce que j'imagine qu'il essaie de savoir de quelle filière terroriste je faisais partie. Et il me crie après, puis je me disais, chaque chose que je dis peut devenir du matériel potentiel. Donc, j'essayais, tu vois, d'énerver un peu le policier parce que je me dis, ça va faire un meilleur numéro. C'est fou, hein, on commence à vivre nos vies en fonction de numéros.
Ah, mais c'est ça, c'est en fait, quand tu es humoriste, tu sais que quoi qu'il se passe dans ton présent, ça peut devenir un set dans le futur, tu vois. Et du coup, tu te dis, peut-être que je peux tirer cette corde-là pour que ce soit encore plus drôle et tout ça. Mais quand même, t'as pris des risques, parce que énerver le policier, c'était peut-être prendre le risque de se retrouver en prison. Mais tu me diras, ça fera un deuxième set aussi.
Exact, à un certain moment, on devient fou. Là. Moi, si je marche dans la rue, il y a une vanne noire qui débarque, la porte s'ouvre, il y a un mec avec un masque de singe, je me dis, viens. Je me dis, ça ferait peut-être un bon numéro. Puis je monte dans la vanne.
Bon, bah, à tous les kidnappeurs qui nous écoutent, Mehdi est...
Rue Saint-Dominique.
Mehdi est volontaire. Mehdi est volontaire. Rue Saint-Dominique, pas de souci, c'est noté.
Si vous pouvez venir un mercredi, je suis libre.
Et ben dis donc, mais c'est incroyable ça. Franchement, c'est génial. Ben, tu sais quoi, j'ai hâte de voir ça en tout cas.
Et en plus, c'est ce qui est marrant, c'est que plusieurs années après, donc en fait l'année dernière, je présentais mon spectacle et je raconte cette anecdote dans mon spectacle et je sors du show et il y a un mec qui vient me voir, un mec assez baraqué, il vient me voir, il me dit est-ce que tu me reconnais? Je dis non, je ne me reconnais pas, monsieur. Il m'a dit c'est moi qui t'ai arrêté. J'ai dit c'est pas sérieux. Il m'a dit oui, il faisait partie des policiers qui m'ont arrêté de la SWAT. Et il était avec d'autres gars, avec lui, c'était d'autres policiers.
Oh là 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 là.
Alors là, j'ai rigolé et j'ai pris une photo avec eux. Ça, c'est arrivé une fois. Et une autre fois, il y a un mec qui est venu me voir, il m'a dit moi, j'étais au troisième étage. En fait, le mec, c'est un psychologue parce qu'il y a des bureaux de psychologues. Il m'a dit ils nous ont évacués. Je savais pas que c'était toi. Il savait pas que c'était moi, cette personne-là. Donc, il l'a appris pendant le show. Et ensuite, ça m'a permis d'écrire une autre blague dans le numéro parce que je trouvais ça justement très drôle, le fait qu'il y ait des bureaux de psychologues. Je me dis, imagine celui qui est en consultation. avant que la SWAT débarque, le mec est comme « Docteur, j'ai l'impression qu'on me suit. J'ai l'impression que les gens veulent me tuer, que les gens m'en veulent. » Le médecin est comme « Mais non, c'est dans votre tête. » Bang, la porte se défonce, la SWAT. Tout le monde à terre. Lui, il est parti pour 10 ans de thérapie.
C'est clair. Franchement, c'est génial. Eh ben, merci beaucoup, Mehdi, pour ces belles anecdotes. C'est vraiment magnifique. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Sur mon fil Instagram, si vous pouvez. Des fois, je mets pas mal de vidéos humoristiques, donc Mehdi Boussaïdan. Sinon, sur Facebook, bon, je suis un peu moins actif sur Facebook. Par contre, j'ai quand même une banque de vidéos que vous pouvez voir là. Mehdi Boussaïdan, humoriste. Sinon, vous pouvez me voir, sur ma rue. Des fois, je sors, je vais acheter des courses.
Ok, donc rue Saint-Dominique. Hein,
Ouais, rue Saint-Dominique. Sinon, mais j'ai vu que j'ai eu des commentaires. Ah, là, il y a les lives que je fais aussi avec Rachid. Tous les mardis soirs et jeudis soirs sur ma page Instagram avec Rachid Badouri, on fait un live de 1 heure où on discute de tout et de rien. Et on finit toujours les lives par un prank call. Donc, on appelle... on appelle des gens.
Ouais, un canular, ouais. Vous faites un canular au téléphone.
Voilà, on finit toujours avec un canular au téléphone qu'on trouve bien rigolo. Sinon, on les remet aussi ensuite sur nos, sur nos pages Instagram pour ceux qui peuvent pas les. Il y a beaucoup de gens, justement des Français, des Belges qui nous écrivent pour nous demander à quel moment on peut les regarder, mais en fait on les enregistre et on les remet, donc ce sera peut-être pas live, mais vous pouvez quand même les réécouter.
D'accord, bah c'est déjà super. Ok, bah c'est noté. Tu as peut-être une chaîne YouTube ou Twitter ?
J'ai une chaîne YouTube aussi, Mehdi Boussaïdan. Twitter, non, j'ai fait un tweet en 2017 et je pense pas qu'il était drôle.
Donc, d'accord, c'était pas le tweet « Venez me sortir de prison suite à une histoire de faux flingue », non ?
Non, non. Sinon, il y a une série que je fais qui joue sur Netflix, qui est accessible en France, qui s'appelle « M'entends-tu ? » ou Can you hear me si vous le traduisez.
Ok, donc, très
vous pouvez
bien.
Voir. Et voilà, c'est pas mal, c'est pas mal ça.
Super. Bah, je mettrai tout ça. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur le podcast sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.